Chapitre 5. Jusqu'en 1914, c'est-à-dire pendant 3 ans, il ne se passa rien de particulier, sinon que le jeune ménage eut un fils qu'on prénomma Maurice et dont M. Perroutet devint le parrain. Puis la guerre éclata. Les histoires d'avancement, les petites jalousies s'évanouirent. M. Perroutet fut mobilisé, M. Diguimper également. Quant à Charles, qui avait été réformé, il dut repasser devant un conseil de révision. Il ne fut cette fois qu'à journée. À ce moment, il reçut une lettre de son père, lui demandant d'aller tenir compagnie à sa mère et de s'occuper de l'agence. Charles eût hésité à quitter la banque canadienne, à s'enterrer dans cette petite ville, s'il n'avait appris que Madame Perroutet et ses filles s'étaient installées au château de Vaugrigneuse. La perspective de les approcher plus facilement qu'à Paris le décida sur le champ. C'était à présent un jeune homme de 25 ans. Les 4 années qu'il venait de passer à Paris, au cours desquelles il s'était marié, il avait eu un fils, il avait fondé un foyer, comme disait son père, lui avait donné un air sérieux et important. À peine de retour à Druny, il prit l'attitude enfantine de celui qui ne se souvient même pas de la topographie des lieux. Il semblait, par contre, au courant de choses qu'il eût été trop long de raconter. Cependant, il se laissait aller parfois à des confidences, mais soudain il s'interrompait, comme on interrompt une partie de cartes lorsque le train entre en gare. À quoi bon parler lorsque vos auditeurs ne sont pas capables de comprendre ce que vous leur dites? C'était au milieu d'une conversation qu'il se posait cette question. On imagine la fierté qu'il pouvait éprouver quand il s'apercevait qu'il se posait de pareilles questions. Il n'y avait pas une quinzaine de jours qu'il était arrivé que les premières querelles s'élevèrent entre sa mère et sa femme. Tant qu'elle avait eu l'espoir d'être reçue au château de Vaugrigneuse, Juliette n'avait pas été trop désagréable. Elle s'était distraite au cours des journées interminables qu'elle passait avec Madame Diguimper dans la maison isolée du bord de la Saône à tracer le futur emploi de son temps. Le matin, toilette, soins à Maurice. Après le déjeuner, visite au château. On la retiendrait à dîner, Charles la rejoindrait. Quelquefois, on passerait la soirée ensemble, on ferait des excursions. Elle aurait chaque jour des nouvelles de M. Perroutet. Elle ferait la connaissance de tous les gens de la région méritant d'être connus. Mais quand elle s'aperçut que les travaux d'approche de son mari s'étaient heurtés à l'indifférence la plus complète, que tout ce qu'il avait pu obtenir, c'était une promesse d'invitation à déjeuner pour le jour où M. Perroutet arriverait en permission, elle tourna sa mauvaise humeur sur son hôtesse. Celle-ci n'était plus d'un caractère très sociable. Il y avait 6 ans, elle avait eu une tumeur au sein. Elle avait refusé de se laisser opérer et le mal s'était peu à peu résorbé. Depuis cette alerte, elle était peut-être sortie de chez elle 10 fois en tout. Elle passait ses journées à s'occuper du ménage, à faire la cuisine, la vaisselle, à prier que son mari eût la vie sauve. Il n'y avait d'ailleurs que lui au monde qu'elle aimait, son fils lui ayant toujours paru avoir de l'indifférence pour elle. Il avait des préoccupations dont il ne parlait pas. Elles n'étaient pas tellement impénétrables. C'était celle d'un jeune homme désirant faire adopter par tout le monde la haute opinion qu'il avait de lui-même, et n'y réussissant qu'auprès de quelques benêts. 4 années ne l'avaient pas fait renoncer à son ambition, bien au contraire. Son premier soin, lorsque la vie eut repris un cours moins chaotique, fut de rendre des visites aux personnalités capables de lui être utiles ou dont la fréquentation pouvait lui valoir quelques considérations. Le prétexte fut simple. Il rechercha dans les dossiers de son père les noms de tous ceux qui avaient eu affaire avec l'agence. « Monsieur, disait-il en se présentant, je m'excuse de vous déranger. Je suis le fils de M. Théodore Digoin. Mon père est parti défendre notre chère patrie. J'aurais voulu pouvoir l'imiter, mais ma santé ne me l'a pas permis. J'ai pris la liberté de venir vous voir pour vous dire que dorénavant, c'est moi qui prendrai la direction de notre vieille maison. Je vous demanderai d'être très indulgent, car ce n'est pas mon métier. » J'occupais jusqu'à présent une situation importante à Paris dans la banque d'un ami de mon père, M. Perroutet. Ma femme, que vous rencontrerez certainement un jour, est justement sa nièce. Ceci est une parenthèse. Vous connaissez M. Perroutet, j'en suis certain, sinon personnellement, du moins de réputation. C'est lui qui a acheté le château de Vaugrigneuse. » Cette façon dédaigneuse de parler de l'agence qui servait de prétexte à sa visite provoquait un mouvement de défense. Ce discours était cependant écouté avec beaucoup de politesse et même avec une certaine déférence. En vérité, il ne pouvait rien se passer. On trouvait ce jeune homme très bien, très correct, mais on n'avait pas besoin de lui. On le regrettait peut-être un peu. Comme il était dommage qu'il se présentât à un mauvais moment, c'était tout. Un jour pourtant, un certain M. Ducardonnet, propriétaire d'une malterie rue des Cordeliers, parut désirer de ne pas rester sur une première entrevue. « Revenez donc me voir, dit-il à Charles, on pourra peut-être faire des affaires ensemble. J'aime beaucoup votre père. » C'était un homme de 60 ans dont le fils était au front. Lorsque Charles fut retourné le voir 3 ou 4 fois, il lui dit à peu près ceci. « Bien que je sois relativement jeune, je n'ai plus la force de me remettre au travail. Je suis tout juste bon à jouer le rôle que m'avait assigné mon fils, rôle qui consistait à ne m'occuper que de la gestion financière. J'ai pensé que puisque vous-même vous étiez libre en ce moment, vous pourriez peut-être prendre la place de mon fils jusqu'à son retour. On vous mettrait au courant. Je suis sûr qu'en très peu de temps, vous seriez capable de diriger parfaitement l'affaire, d'autant plus que nous serions continuellement en contact. » Monsieur Ducardonnet jouait sur les mots. Il n'avait pas été un instant dans son intention de faire d'un jeune homme qu'il connaissait à peine le directeur de la malterie. Il faut dire que celle-ci ne pouvait être comparée à celle du Nord. C'était une petite malterie. Il faut à chaque industrie certaines conditions climatiques ou géographiques pour prospérer. Pour des raisons de famille ou autres, ils s'enfondent parfois dans des régions où elles n'ont que faire. Elles vivent cependant tout doucement. C'était le cas de cette malterie dont tout le personnel était composé d'une 20aine d'ouvriers et de 5 ou 6 employés. Privé des prérogatives personnelles du fils Ducardonnet, ce poste de directeur n'était en réalité qu'une place d'employé. Dans sa joie, Charles ne s'en aperçut pas. La situation qu'on venait de lui offrir était de celles pour lesquelles il se sentait fait. Donner des ordres, recevoir des fournisseurs, des solliciteurs d'une certaine heure à une certaine heure, être tout de suite placé à la tête sans être obligé de gravir, comme à la Canadian Bank, un échelon après l'autre, avoir des responsabilités, être sinon seul à prendre des décisions, du moins le paraître devant les étrangers, les employés et les ouvriers, c'était plus qu'il n'avait jamais rêvé. Il demanda cependant à réfléchir. C'était plus habile. Il ne faut jamais avoir l'air, pensait-il, d'être content de ce qu'on vous offre. Depuis le jour où il avait été froidement reçu par Madame Perroutet, il n'était pas retourné au château de Vaugrigneuse. Son premier acte, après cette aubaine, fut de s'y rendre. Ce fut sur un ton modeste qu'il annonça qu'il allait devenir directeur de la malterie de Drugny. « Vous voyez, sembla-t-il dire, que je ne suis pas le petit jeune homme qu'on évince comme le premier venu. » Madame Perroutet ne se donna pas la peine de chercher ce qui était sous-entendu. Elle le félicita avec indifférence. « Mais, s'écria-t-il, je n'accepterai ce poste de directeur qu'après avoir prévenu M. Perroutet. Je lui ai promis que je resterai à sa disposition. Je ne voudrais pas qu'il pensât un instant que je suis homme à ne pas tenir parole. » Madame Perroutet lui répondit que son mari était à la guerre et que, certainement, tant que celle-ci ne serait pas terminée, il ne songerait pas à lui reprocher quoi que ce fût. Quelques jours plus tard, Charles Digoin annonçait solennellement à M. Ducardonnet qu'il acceptait de prendre la direction de la malterie. « Il est bien entendu, ajouta-t-il, que le jour où M. Perroutet aura besoin de moi, vous ne ferez aucune difficulté pour me rendre ma liberté. »